Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs dans le Christ, bon après-midi, et encore une fois, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, feu d'amour, soient avec vous maintenant et pour toujours. Nous en sommes donc au début de la quatrième cassette, toujours sous le slogan de la deuxième interpellation, « Chrétiens, chrétiennes, dormons-nous, si oui, sonnons les matines. » Nous avons vu cet avant-midi, dans la troisième partie, l'importance de la solution des solutions si nous voulons que notre Église passe véritablement de son déclin actuel à un nouvel essor exceptionnel. Le temps ne me permettra pas de parcourir la quatrième section D qui est inscrite au programme. Je la reprendrai telle que je vous l'ai dit dans une cassette intitulée « Un nouveau style en Église, légitime et indispensable ». Et à cette occasion, j'énumérerai assez longuement tous les avantages qui se présentent, tous les bienfaits que présente ce style nouveau. Bienfaits généraux pour toute l'Église, bienfaits particuliers pour les ouvriers à sa mission et les antidotes que ce style offre à beaucoup de nos lacunes actuelles, comme le cléricalisme, l'autoritarisme, le formalisme et les rivalités, etc., etc. Mais avant de passer à la quatrième partie, j'aimerais en guise de conclusion préciser une dernière fois concernant ce style, trois choses. Ce qui caractérise essentiellement le style 2, vous avez dû vous en apercevoir, si on s'y arrête le moindrement, est du déjà connu et vu en Église, et se trouve en toutes lettres depuis toujours dans la doctrine et la tradition de l'Église, mais a tout simplement été oublié, négligé ou mis au rencard peu à peu au cours des temps. Alors j'insiste donc, c'est important. L'essentiel du style 2 ne repose pas sur des idées toutes nouvelles, des découvertes nouvelles, qui sont discutables et discutées, des découvertes risquées et plus ou moins acceptées par l'Église. Au contraire, les quatre grandes idées en question, ce que j'ai appelé les quatre éléments essentiels d'être instrument du Seigneur, c'est-à-dire de laisser le Seigneur faire l'œuvre du Seigneur en nous, l'idée d'intimité plus grande entre les disciples et le Christ, d'être de vrais communautaires entre nous, le tout baignant dans le plus pur amour trinitaire, du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, sont depuis toujours partie intégrante et bien intégrée dans la bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a dans cela ni schisme ni hérésie. Deuxièmement, le style 2 dont il est question n'a rien à voir avec des changements de structure, de cadre, de procédés, de pédagogie ou de méthodologie. Le style 2, j'insiste encore, ne privilégie aucune façon d'agir, d'enseigner, de coordonner, d'agir plutôt qu'une autre. Le style 2 n'en exclut aucune non plus, du moins a priori. Le style 2, je le répète, ne se situe qu'au niveau de la qualité d'être spirituel du berger, du pasteur ou du fidèle en Église. Et une fois bien branché sur le Seigneur, celui-ci, par son esprit, saura le brancher convenablement et efficacement dans le monde et sur le monde. La sève étant ce qu'elle doit être, les branches pastorales nécessaires pousseront. c'est-à-dire les moyens utiles apparaîtront à chacun, et les fruits aux quatre valeurs en découleront. Tertio, et finalement, et ce dernier point est également important à noter, le style 2 ne prévoit ou n'impose à personne un programme de vie particulier, un horaire de prière particulier, un encadrement spécial, aucune spiritualité exclusive. Bref, aucune manière préfabriquée, stéréotypée de penser, d'agir ou de se comporter. Le style 2 est large ouvert, très large ouvert, absolument tout, je dis bien tout, les types humains et les types spirituels chrétiens possibles. En effet, et c'est ce qui fait la force et en même temps la souplesse et en même temps l'originalité exceptionnelle de ce style 2, c'est qu'une fois que les quatre ingrédients essentiels se retrouvent intégrés dans notre vie, à savoir être instrument véritable du Seigneur, intime sérieux du Christ, vrai communautaire, aimé et aimant de son amour trinitaire, on est, par voie de conséquence, tout à lui, le Seigneur, encore davantage tout à soi, et plus que jamais tout à tous. Alors, si vous voulez, maintenant, passons à la quatrième partie, qui est intitulée, comme vous le voyez dans le programme, les 12 forces négatives dont le poids s'accentue en Église-institution et qui presse de plus en plus la courbe vers le déclin. Permettez-moi, avant de passer à la première force négative, quelques remarques préliminaires. Habituellement, mes chers amis, et ça, c'est tant par goût naturel que par option surnaturelle, j'aime prendre les gens et les choses, non pas à défaut, mais toujours à qualité. J'aime toujours aborder les questions, les situations par leur côté positif. Je suis, au point de départ, allergique aux litanies de complaintes. C'est donc un peu, je dirais beaucoup même, malgré moi, que je suis amené aujourd'hui à dénoncer moult choses qui ne vont pas ou ne sont pas en notre Église. J'aurais tellement préféré pouvoir procéder selon ma manière habituelle qui recherche les dynamismes positifs d'abord chez les gens ou dans les situations, afin de m'y insérer et agir à l'intérieur de ces courants chauds, de ces Gulf Streams d'espérance. Mais hélas, ce n'est pas possible à ce stade-ci de notre Église, de Québec ou d'ailleurs. Il y a des obstacles majeurs qui bloquent et détournent même consciemment ou inconsciemment nos forces vives disponibles. On vit sans peut-être trop s'en rendre compte des illusions, des mirages, des erreurs d'options et de procédés aux conséquences sérieuses qu'il faut avoir maintenant le courage d'appeler par leur nom, de dénoncer et de soumettre à ce que j'appelle le dynamitage spirituel chrétien. Par cette expression audacieuse et sans doute nouvelle pour certains, j'entends qu'il faut avoir le courage et l'habilité avec et dans le Seigneur de mettre des doses suffisamment fortes à la fois de vérité, de charité et de justice pour faire éclater ce qui est entrave en Église, parfois même à notre insu ou à l'insu des personnes les mieux intentionnées, l'action de la grâce et l'avènement de son règne en nous et parmi nous. Donc, il ne s'agit pas de dynamitage pour le seul plaisir de faire sauter, mais de dynamitage spirituel chrétien, indispensable, comme celui que l'on doit, auquel on doit parfois recourir dans la vie courante, soit pour construire et creuser, pour établir de solides fondations, faire des routes, soit pour vaincre des embâcles de glace ou de bois sur des rivières, soit pour combattre des feux de forêt. Saint Paul, d'ailleurs, aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 et suivants, nous dit ceci. « Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. » Écoutez bien. « Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. » Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière que l'on voit apparaître. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. » Et c'est Saint Jean aussi, au chapitre 3, versets 20 et 21, qui nous dit que « Amener les fautes au grand jour pour les corriger est une œuvre bonne. » « Quiconque fait le mal, dit Saint Jean, est la lumière. » et refuse de venir à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Donc, n'ayons pas peur de nous arrêter à nos lacunes pour les regarder calmement, avec et sous son regard divin. Le dilemme que j'ai eu, en préparant ces interpellations, était celui-ci. Est-ce que je devrais commencer par parler des 12 forces négatives ou parler d'abord des 12 forces positives? En commençant par les forces négatives, je craignais de créer la mauvaise impression première que ces interpellations s'attaquent et dénigrent l'Église. Vous connaissez comme moi cette boutade qui dit que on n'a jamais une deuxième chance de créer une première impression. Par ailleurs, je me disais, si je commence par les forces positives, j'aurai à terminer par les forces négatives, et ça ne serait guère mieux. Parce que si la première impression est celle qui porte, la dernière impression, à mon avis, c'est celle qui importe. Alors, je redoutais donc cette façon de procéder, et comme je tenais éminemment à ce que ces interpellations se terminent sur une note de confiance et d'espérance, j'ai opté pour le plan que vous avez sous les yeux. D'abord les forces négatives et ensuite les forces positives. Et quand je dis une note de confiance et d'espérance, c'est à savoir que malgré nos nombreuses lacunes dû en grande part à notre style actuel, je suis convaincu qu'on peut en sortir en changeant notre style, en lui remettant en main son Église, afin que toutes les forces vives déjà en place se multiplient et s'épanouissent. Enfin, trois mises au point nécessaires. Quand je parle de forces négatives, entendons-nous bien, je ne veux pas parler d'actions mal intentionnées, suscitées et voulues comme telles dans l'intention de nuire à ou en Église. Pas du tout. Comme on va d'ailleurs s'en rendre compte, ces forces négatives sont plus ou moins conscientes chez beaucoup de fidèles et de pasteurs en Église, tellement ils s'affairent à leurs propres bonnes œuvres avec générosité et sincérité. À certains égards, on pourrait même risquer de dire que plusieurs de ces 12 forces négatives sont presque inévitables, en ce sens qu'elles sont la conséquence immanquable de notre style de pensée, de vie, de fonctionnement présentement en cours. C'est plus fort que nous. On les suscite, nourrit et développe plus ou moins consciemment, et ces forces négatives, à leur tour, accélèrent le déclin. Une deuxième mise au point, je m'arrête à 12 forces négatives. Loin de moi l'idée d'insinuer qu'elles sont les seules, ni même qu'elles sont nécessairement les plus importantes. Et là-dessus, toute une gamme de diversité d'opinions est possible et même probable. Personnellement, j'ai choisi surtout celle qui, à l'écoute attentive du peuple de Dieu, soucieux de ce qui se vit en Église, semble le plus décevoir, inquiéter et marquer négativement. 12 forces négatives qui vont tout simplement disparaître, s'évaporer peu à peu, si jamais nous disons oui au nouveau style que le Seigneur nous propose. La troisième et dernière mise au point veut préciser que sur chacun de ces 12 points négatifs, je serai forcément court et restreint. J'aurai à peine le temps d'effleurer le sujet, mais j'y reviendrai plus tard dans d'autres enseignements. Et je le fais un peu à regret, parce que je pourrais épiloguer durant des heures sur chacun de ces points. Alors, on y va? Vérifiez bien encore une fois vos ceintures de sécurité. Et s'il y en a qui préfèrent, il y a des fauteuils avec des ceintures avec double courroie en plus de la taille qui passent par-dessus les épaules, comme on les pilote dans les avions. Et si ça vous intéresse de faire un petit test, toujours sous ce slogan « Chrétiens, chrétiennes, dormons-nous, sonnons les matines », profitez de l'exposé de ces 2 douzaines de forces, tant négatives que positives en Église, que je vais faire, pour vous donner une occasion d'évaluer votre degré réel de sommeil en Église à l'heure actuelle, de somnambulisme ou de léthargie. Avec un petit crayon, un petit bout de papier, décernez-vous une étoile pour chacune des forces négatives ou positives dont vous croyez honnêtement, bel et bien conscient ou consciente, ou une demi-étoile si vous ne l'êtes qu'à moitié. Après que nous aurons parcouru ensemble ces 12 forces négatives, 12 forces positives, donc 24, qui jouent présentement en Église et peuvent faire toute la différence au monde entre notre déclin continu et un tout nouvel essor, vous compterez vos étoiles. Je vous dis, demi-sérieux et demi à la blague, si vous en avez moins que 10, je vous dis, en lettres majuscules, les matines sont sonnées. Sortez de votre sommeil et quittez le dortoir des chrétiens trop emmitouflés. Et alors, allons-y. Passons à la première force négative. C'est le style actuel de pensée et de fonctionnement en Église qui, je le déclare, est dépassé, doit céder la place à tout prix. Isabelle Gauvin, notre cofondatrice, exprimait en 1977, dans un message prophétique, quand l'enseignement du Seigneur est devenu clair pour nous, concernant la différence radicale entre une œuvre vraiment du Seigneur et une œuvre de notre part pour le Seigneur, elle disait ceci, et je cite, « Initialement fondée en tant qu'œuvre du Seigneur, l'Église entre nos mains est devenue peu à peu une œuvre pour le Seigneur. Avec les meilleures intentions, sans trop nous en rendre compte, nous nous la sommes appropriée. L'heure est à la restitution de l'Église institutionnelle véritablement entre les mains de son maître, soit un retour à son statut de départ. Vatican II ne sera réussi qu'à cette ultime condition. Toutes nos réformes jusqu'ici, si valables soient-elles, demeureront mineures, partielles et éphémères sans cette résurrection fondamentale. Ézéchiel nous redirait, les os se sont rapprochés les uns des autres, ils sont recouverts de nerfs, la chair a poussé, la peau est tendue par-dessus, mais il n'y a pas encore d'esprit nouveau en eux. L'Église nouvelle, prophétisée par Jean 23, est encore à venir dans ce qu'il y a de plus essentiel. Et l'esprit vint en eux, ils, les ossements, reprirent vie, et se mirent debout sur leurs pieds, grande et immense armée. Ézéchiel 37, 1 à 10. Fin de la citation. C'est en effet le jour et la nuit entre les deux styles, et c'est loin d'être du pareil au même comme certains se le font croire. Comme on l'a déjà mentionné, le style actuel est plutôt axé sur l'agir, l'action, le savoir-faire, le savoir-dire, où nous avons tendance à prendre les choses en main, à en faire notre affaire, notre œuvre à nous, notre succès à nous. Et on tente mordicus d'y arriver, surtout, à coup de volonté et à bout de bras, pour ainsi dire. On pourrait dresser un long tableau des méfaits que cause à la longue ce style d'Église, ou à toute fin pratique, nous nous imposons comme les maîtres d'œuvre, et ce, souvent à sa place. Lui, le véritable chef, mandaté bien avant nous pour inspirer, guider et animer l'Église. Ensemble, considérons-en quelques-unes de ses conséquences malheureuses. J'en prends trois ou quatre qui me viennent à l'esprit, parce qu'elles sont très évidentes. Le premier des méfaits, qu'on le veuille ou non, le fait de prendre en main nous-mêmes et de façon exagérée l'Église nous entraîne tôt ou tard à l'agitation, à l'hyperactivité, à la vie à la course et à l'essoufflement. Les défis et les problèmes surabondent et on finit par les laisser nous accaparer, nous surmener et nous brûler. Car, qu'on le veuille ou non, tout cela surpasse nos aptitudes. On en arrive donc à une Église à coup d'effort et de volonté, une Église à bout de bras. Et une telle Église s'essouffle tôt ou tard. Et ce qui est paradoxal, mes amis, c'est que d'une part, on a une Église qui court souvent après son souffle, alors que son souffle écrit avec un grand S, son souffle à lui, est à sa portée. À notre portée, et comme je le dis souvent, a plus besoin de notre part d'un comité d'accueil que d'un comité d'organisation. Comme dit en blaguant Cristallin, il s'est développé peu à peu en notre Église une nouvelle mode d'engagement post-conciliaire, la mode B&B, non pas du nom d'une actrice française, mais des deux ingrédients, bougeotte et bouillotte. On croit que le sérieux de son engagement ou de son dévouement en Église se mesure au degré de sa bougeotte. Faut que ça bouge, faut que ça turbine, faut que ça se démène, faut s'activer à fond. Et de sa bouillotte, faut que ça chauffe à blanc ou à rouge. Il faut que ça pétille, il faut que ça bouille, il faut de l'action, des réactions, sinon c'est pas sérieux. Ce mode d'engagement B&B, bougeotte et bouillotte, semble déclassé, il va sans dire, surtout auprès de ceux qui, au contraire, privilégient le type d'engagement A et A, amour et abandon. Et évidemment, ces gens se font accuser de ne pas s'impliquer ou de ne pas prendre les choses en main autant qu'ils le devraient. Le deuxième méfait du style actuel, et soyons francs, nous qui sommes engagés en Église, c'est la tentation de recourir à ce que j'appelle le fast food spirituel. Le problème sérieux que beaucoup de dirigeants et de leaders en Église ont à envisager est de taille. Et le voici. D'une part, ils sont sollicités de partout. On les veut partout et toujours. On sollicite leur présence à toutes les réunions le moindrement importantes. On veut leur avis ou préavis sur tout. On les bombarde de lettres, documents et requêtes à propos de tout et de rien. Le pauvre dirigeant, leader en Église, évêque ou responsable diocésain, s'il n'a pas une vie déjà hautement disciplinée et une vie intérieure profonde qui a tous les moyens de s'alimenter régulièrement et intensément, risque vite de perdre les pédales, voire même de paniquer, de se vider et de se brûler. En effet, il risque de céder à ses pressions et innombrables requêtes, à se mettre dans ce rythme de vie à la course et de négliger, d'ajourner indûment d'abord, voire même de se résigner à ne plus s'alimenter spirituellement comme il le devrait, comme il aurait besoin, comme les autres s'y attendent, même si paradoxalement il l'accapare et l'en empêche. Alors il recourt au fast food spirituel. Un troisième méfait du style actuel, c'est ce que j'appelle le carrousel qui tourne toujours en rond. On passe notre temps en Église, ou la majeure partie de notre temps, à rechercher une nouvelle identité, à nous redéfinir, à nous restructurer, à mieux nous situer, à repenser nos objectifs, à reclasser l'ordre de nos priorités, à nous réévaluer nos méthodes, etc., etc. Les mois et les années passent, et c'est démarche de retrouvailles après démarche de retrouvailles. On se cherche continuellement. On voudrait se retrouver pour de bon, mais on y arrive peu ou pas, du moins de manière rassurante, durable et fructueuse. C'est, permettez-moi d'en faire ici la confidence, c'est le carrousel presque perpétuel qui tourne, 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 toujours en rond. Quand j'étais dans le staff de l'archevêché de Montréal, le carrousel, comme dans la plupart des diocèses d'ailleurs, prenait environ 6 ou 7 ans à faire son tour, pour en définitive revenir au même point, celui où les nouveaux venus dans l'autorité, où les déceptions pastorales s'étant accumulées, déclenchent un mouvement, un genre de remise en cause générale. On se repose alors les mêmes questions, on cherche de nouvelles solutions miracles. Les nouveaux venus, peu intéressés par l'expérience acquise par les autres, arrivent avec candeur et croient mordicus à leur nouveau projet, souvent une pure réédition de ceux des autres qui ont été insatisfaisants. Et le carrousel se remet en marche au son d'une nouvelle musique et d'un vocabulaire différent, couvrant les mêmes mots, M-A-U-X, avec d'autres mots, M-O-T-S. Quand j'étais secrétaire général de l'Épiscopat du Canada, le tour de piste était plus court, d'environ 3 ans et demi à 4 ans. Les nouveaux évêques, se croyant plus au fait des désidérata du peuple et du clergé que leurs prédécesseurs, y allaient de bonne foi en proposant une remise en cause, entre autres, des objectifs de la nature et du rôle de la conférence épiscopale. Pour eux, la conférence ne pourrait naître qu'après cette étude. En 11 années, en fonction de secrétaire général, plus 6 ans en poste de directeur d'office dans ce secrétariat, donc au total 17 ans, j'ai vu le carrousel se remettre en marche 4 fois au moins, et en revenir à peu de choses près, toujours aux mêmes conditions, et à la case de départ. Un quatrième inconvénient dû à notre vie à la course, c'est que malheureusement, trop souvent en notre Église, on pratique, comme nous le disait l'autre jour notre ami Cristallin, une pastorale de maintenance et de complaisance. Maintenance en ce sens qu'on se contente de bien entretenir notre patrimoine religieux, qu'on se contente de garder tout bien en place et en bon état. Comme diraient les Anglais, « what we have, we hold ». Si ça coule ici, on accourt et on répare. Si l'air mauvais entre, on calfeutre. Si l'air bon sort et que ça dégonfle, on bouche le trou. Si ça rouille ici ou là, on met un peu d'huile. On va donc toujours au plus pressant. On joue aux pompiers et aux ambulanciers. Rarement on a le temps d'aller au plus important. L'expansion et la croissance, avec tous les risques que ça entraîne, c'est pas pour aujourd'hui. Pastorale de complaisance également. On part de moins en moins en certains milieux, et ayons la simplicité de le reconnaître, de ce que le Christ nous a demandé, recommandé et même commandé de dire, comme lui, à temps et à contre-temps, mais on finit par se soucier de dire plus tôt ce que les gens seraient heureux d'entendre, d'accueillir et d'appliquer. L'Église, bien souvent, je dirais trop souvent, hélas, ne part plus, comme elle devrait, des appels de Dieu pour les transmettre tels quels au monde, confiante dans la grâce divine efficace qui accompagne toujours cette proclamation du nom du Seigneur, l'Église part, plus souvent que jamais, des appels du monde et lui retourne ses appels avec les lumières et les forces limitées qu'elle possède. Elle cherche dans une étude poussée des réalités du monde à dégager les éléments de solution. Et elle réussit à trouver quelques bonnes idées, parfois même des éclairs de génie. Mais c'est un dialogue monde-église-monde, aller-retour, souvent sans réel input actuel, faute de le demander au Seigneur, de celui qui a lui-même créé ce monde et fondé cette Église. Bien entendu, je sens le besoin de faire cette nuance. Le style actuel n'a pas que des défauts. Je le dis souvent, il est bien intentionné, il est occasion d'élan sérieux, heureux, généreux. Mais cet accaparement, cette appropriation plus ou moins consciente de l'Église entre nos mains découle, comme d'un péché originel, de cet accaparement, de cette appropriation, toute une série de difficultés et de déficiences qu'on ne pourra jamais surmonter. À la vérité, le style actuel est usé, dépassé, déphasé, doit céder la place, comme je l'ai écrit dans ma lettre ouverte et fraternelle aux évêques il y a déjà 6 ans, est blessé à mort. Il est tellement usé qu'il ne peut vraiment plus être raccommodé ou rapiécé. On ne met pas une pièce neuve à un vieux vêtement, le tissu usé ne fera que se déchirer, lit-on dans l'Évangile. L'heure est venue, mes amis, de mettre en circulation une pièce d'étoffe complètement neuve. Et à chacun de nous d'avoir le courage de prendre sa retraite en douce face à ce style actuel. Blessé à mort, je l'ai dit, j'en ai 1000 preuves, et appelé à plus ou moins brève échéance à avouer son échec et céder la place. Et je termine ce point par des petites phrases choc de mon cher ami Cristallin, qui nous dit: notre Église, c'est une Église bien gérée, bien administrée, oui. Bien animée, non. Une église qui fonctionne? Oui. Qui passionne? Non. Une église humainement remodelée, restructurée? Oui. Spirituellement renouvelée, en profondeur? Non. Une église qui surveille et répond aux alarmes? Oui. Qui réveille et sonne l'alerte dans le monde? Non. Une église d'avant-garde au plan humain, engagée dans les problèmes du monde? Oui. D'avant-garde au plan spirituel, tant prophétique qu'eschatologique? Sûrement pas. Passons maintenant à un deuxième point. La deuxième force négative qui déçoit, et j'y ai déjà fait allusion en parlant des lacunes que le peuple trouvait dans le comportement des évêques et des prêtres, il y a en Église un manque regrettable de véritable leadership spirituel chrétien. À mon avis, et à celui de la grande majorité du peuple de Dieu, tant pratiquant que non pratiquant, de façon générale, avec quelques heureuses exceptions, bien entendu, nos dirigeants en fonction en Église, et j'inclus évêques, pasteurs, supérieurs, et auxquels j'associe certains laïcs activement engagés dans les mouvements et les œuvres, ne donnent pas, ou beaucoup trop peu, le leadership vraiment spirituel dont le peuple aurait besoin et auquel il aurait droit. En tous les cas, cela manque de punch, d'efficacité, de dynamisme, de pep, d'allant. Un leadership, c'est fait de paroles, c'est fait de comportements, d'écrits, d'exemples et de fruits significatifs qui ont par voie de conséquence l'impact suffisant pour démontrer la valeur du messager et en même temps prouver l'authenticité du message et entraîner à leur suite dans une direction donnée, et en l'occurrence ici, celle de la sanctification de plus en plus grande des âmes et du salut. Un vrai leader spirituel chrétien, c'est normalement un témoin clé, un témoin vedette du Christ. On doit sentir, voir, entendre à travers le leader le Christ à l'œuvre à temps complet. Normalement, c'est un évangélisateur. Et selon moi, un évangélisateur, c'est ni plus ni moins qu'un évangile grand ouvert sous nos yeux. Et un leader, c'est une personne dont le dire, l'agir, le réflexe, la conviction, évidente et constante, nous font tourner les diverses pages de la bonne nouvelle de Jésus, dont les comportements quotidiens nous illustrent en couleur les paraboles, les conseils évangéliques, les béatitudes et les exhortations proclamées par Jésus. Or, à la vérité, avouons-le à notre courte honte, à ce moment-ci de l'histoire de notre Église, les gens du peuple de Dieu qui fréquentent nos évêchés, archevêchés, secrétariats d'épiscopat, d'œuvres ou de mouvements, en sortent plus souvent avec l'impression d'y avoir rencontré des administrateurs, des hauts fonctionnaires, des brasseurs d'idées ou d'affaires, des organisateurs ou des intellectuels, plutôt que d'avoir l'impression d'avoir fréquenté des témoins clés du Christ vivant ou des évangélisateurs de bord en bord. Peu, trop peu, ne leur donne à la vérité l'impression ou la conviction d'être de la trempe de vrais leaders, et j'insiste à nouveau, leaders vraiment spirituels chrétiens. Donc, non pas seulement des gens qui connaissent le domaine spirituel, ou en parlent avec brio même, mais des gens qui en vivent à fond, en sont imprégnés jusqu'à la moelle des os, au point que cela déborde d'eux-mêmes éclatent à leur insu et, par voie de conséquence, éclairent, interpellent, secouent, édifient, emballent et entraînent ceux et celles qui croisent leur route. C'est d'ailleurs ce qui se produit normalement dans les autres domaines avec un vrai leader. Prenons un leader sportif, par exemple. Le coach, l'entraîneur, le capitaine d'une équipe ou d'un groupe d'athlètes, s'il est vraiment leader, il incarne en lui-même, par sa compétence et ou par son expérience, le sport en question. Il dynamise son entourage. Il en est de même d'un leader politique véritable. Il est, pour son parti, ses partisans, celui qui incarne le mieux l'idéologie et le programme électoral mis de l'avant. Et ce, au point d'enthousiasmer et de rallier les gens autour de cette cause. C'est la même chose d'un leader syndical, d'un leader intellectuel. On ne peut pas, et on ne doit pas prétendre, comme certains semblent l'insinuer, que dans le domaine spirituel, ce n'est pas la même chose. Le leader spirituel ou le leadership spirituel ne consiste pas seulement à prendre position, à décréter que ceci est bien ou mal, à dénoncer l'avortement, l'euthanasie ou l'injustice, mais le leadership spirituel consiste, je dirais même avant tout et surtout, à former progressivement la mentalité, la conscience des gens, à éclairer et à former peu à peu les esprits et les cœurs, afin qu'un peuple, le peuple de Dieu, en arrive à discerner de plus en plus et à respecter de mieux en mieux les vraies valeurs. Et on me fait signe que le moment est venu de retourner la cassette. Alors, à bientôt.